Le Goethe-Institut est très heureux de vous recevoir ce soir pour cette table ronde dans la librairie Mola, ensemble avec la librairie Mola, sur « Et si on relisait Grimm ?» avec Natacha Rimasson-Fertin, qui a fait la première traduction intégrale ou une retraduction commentée des Frères de Grimm aux éditions José Corti, Madame Nicole Belmont, anthropologue, et un débat qui est animé par Christiane Conan-Pintado, qui est maître de conférence à l'IEFM de Bordeaux et qui s'est spécialisée dans les contes de Grimm. C'est elle qui va présenter nos conférenciers de ce soir et je lui laisse la parole.
Merci. Il faut donc saluer cette heureuse initiative du Goethe-Institut de nous réunir ici autour de Natacha Rimasson-Fertin, de Nicole Belmont et des frères Grimm, avec ce beau titre « Et si on relisait les contes des Grimm ?» où j'aime bien le préfixe, puisque ce préfixe implique que si on les relit, c'est qu'on les a déjà lus. Ça me rappelle la définition, enfin une des définitions que donne Italo Calvino des classiques. Il y en a 14 qui se succèdent au début de son livre « Pourquoi lire les classiques ?» et il dit que les classiques, ce sont ces livres dont on dit toujours « je suis en train de le relire » et non pas de le lire. Donc on va relire ou peut-être découvrir sous un autre angle les contes des Grimm ce soir. Des contes qui parlent à l'imaginaire de tout le monde. Des contes qui sont inscrits au patrimoine de l'humanité. Ils sont inscrits au registre de la mémoire du monde par l'UNESCO depuis 2005. Et qui donc sont à nouveau d'actualité à la faveur de la traduction que nous devons à Natacha Rimasson-Fertin. Alors quand on dit les contes des Grimm, on pense à ces contes qu'on connaît très bien, on connaît tous Blanche-Neige, Hansel et Gretel, Vaillant Petit Tailleur. Plus personne au monde n'ignore l'existence de réponses à ce jour grâce à ou à cause de la firme Disney. Mais quand on parle de La Belle au bois dormant, Le Petit Chaperon Rouge, Cendrillon, est-on sûr de toujours parler d'un conte des Grimm ? Est-ce qu'on ne pense pas parfois à un conte de Perrault ou, une fois de plus, à ce qu'en a fait Walt Disney ? En tout cas, lire les contes de Grimm, ça implique de découvrir un corpus très vaste, un corpus qui donne un peu le vertige, puisque si l'on songe que Perrault a écrit 11 contes, les contes de Grimm, eux, en ont écrit 201, ainsi que 10 légendes, ainsi que 28 contes qui ont été supprimés par eux, mais que nous allons trouver dans les volumes publiés par et traduits par Natacha Rimasson-Fertin. Donc un ensemble de 239 textes. Évidemment, tout le monde n'a pas lu ces textes et j'en découvre tout le temps chaque fois que je les regarde. Alors pour parler ce soir d'une œuvre à la fois très connue et sans doute aussi méconnue, je rappelle que nous sommes avec Natacha Rimasson-Fertin qui est germaniste, qui est maître de conférence à l'université Stendhal à Grenoble 3 et qui est l'auteur d'une thèse soutenue en 2008 sur l'autre monde et ses figures dans les contes des Grimm et dans les contes russes d'Afanassiev. Elle est donc l'auteur de la dernière édition de ses contes et de la première édition critique en France. Quant à Nicole Belmont, elle est anthropologue, chercheure à l'École des hautes études en sciences sociales et évidemment, dans ses travaux les plus récents, elle s'est beaucoup attachée aux contes de la tradition orale et ses travaux l'ont amenée évidemment à croiser constamment les contes des Grimm. Alors, dans son immense bibliographie, plus vaste encore que celle des frères Grimm, je retiens « Poétique du conte » publié chez Gallimard en 1999, et c'est sur le conte de tradition orale, et un ouvrage plus récent, publié l'an dernier, que je n'ai pas apporté, « Mythe, conte et enfance, les écritures d'Orphée et de Cendrillon », publié chez l'Harmattan. Nous avons une heure pour relire les contes des Grimm, ce qui est fort peu. Donc on va commencer à parler de la traduction de Natacha Rimasson-Fertin. Puis, on essaiera de pointer un certain nombre de paradoxes liés au conte des Grimm, qui sont au départ un projet scientifique, puis qui finalement ont basculé dans la littérature, pour en arriver peut-être, si on a le temps, à évoquer ce que les contes de Grimm représentent aujourd'hui dans un domaine qui, personnellement, m'est cher, qui est celui de la littérature enfantine. Voilà, donc pour parler de cette traduction, et avant de laisser la parole, après je ne dis plus rien, je rappelle que la première traduction des frères Grimm en France date de 1824, et il se trouve que ce n'est pas une traduction de l'allemand, c'est une traduction de l'anglais. C'est-à-dire qu'on a traduit le traducteur des contes de Grimm en anglais, Edgar Taylor, qui avait lui-même fait une traduction d'une sélection de contes, qui était beaucoup plus, enfin, qui était une traduction adaptation, qui à la fois compilait plusieurs contes, les fusionnait, les moralisait, les anglicisait en transformant les noms de mets allemands en mets anglais, la saucisse devenait du steak, et les civilisait, comme on le voit beaucoup faire dans les adaptations. L'unique traduction française intégrale, nous la devons à Armel Gern et elle date de 1967, ce qui est incroyablement tardif si l'on songe que les contes ont été traduits par exemple en Angleterre en 1884 par Margaret Hunt et là déjà une véritable édition critique. Alors, la cause de ce retard doit sans doute à la fois à l'ombre hégémonique des contes de Charles Perrault, bien sûr, en France, et sans doute aussi au poids des relations franco-allemandes tourmentées pendant les deux siècles. En tout cas, il manquait une traduction telle que Natacha Rimasson-Fertin nous la présente, puisque en dehors de la traduction d'Armel Gern, nous n'avions que des traductions partielles, comme celle de Marthe Robert, qui est une très belle traduction, mais il n'y a que 35 contes, publiés en 1974. Et 20 ans plus tard, en 1996, celle de Jean Amsler, qui a choisi, lui, d'autres contes que ceux de Marthe Robert, mais également une sélection. Voilà, donc, Natacha, vous allez nous dire pourquoi et comment vous avez entrepris cette nouvelle traduction qui respecte le titre des Grimm, ce sont les contes pour les enfants et la maison. Et comment vous avez procédé et comment vous vous situez aussi par rapport aux traductions antérieures qui sont des traductions littéraires, c'est-à-dire plutôt infidèles, évidemment. Je le dis entre guillemets parce que ça n'a pas de connotation péjorative. Ce sont souvent de belles traductions, mais quand on revient au texte original, on est parfois un petit peu surpris.
Très bien, alors je vais essayer de m'attaquer à cette tâche un peu difficile, de dire pourquoi on retraduit un classique finalement, puisque les classiques, on les relit, on les retraduit, et il faut bien se justifier. Alors je trouve que vous avez très bien résumé les deux objectifs majeurs finalement de cette nouvelle traduction, qui était à la fois de proposer une traduction vraiment intégrale, c'est-à-dire de proposer au public francophone les textes qui sont accessibles dans les éditions de référence allemande qui présentent, outre les 201 contes plus les 10 légendes pour les enfants, les contes qui ont été supprimés par les frères Grimm de leur vivant, donc les fameux 28 contes retranchés, qui sont accessibles dans les éditions de poche allemande, les petits livres jaunes que les germanistes connaissent bien, chez Réclame. Donc c'était vraiment l'idée de proposer cet équivalent pour qu'on puisse vraiment se faire une idée de l'allure qu'a pu avoir le recueil au fil de ces 7 rééditions successives du vivant des frères Grimm, de leur manière de travailler aussi, puisque cette suppression de contes, elle répondait à des objectifs, à des choix dont les frères Grimm étaient bien conscients, et puis je pense qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus. Et à la fois, un des objectifs majeurs des éditions Corti était de proposer avec cette nouvelle traduction une édition vraiment scientifique, chose qui n'existait pas dans le paysage français jusqu'à présent, c'est-à-dire donc proposer aux lecteurs non seulement les contes, mais aussi, quand je dis édition scientifique, c'était vraiment proposer les préfaces des frères Grimm eux-mêmes, puisque dès la première édition en 1812, pour le tome 1, 1815, pour le tome 2, là c'est parfait, en fait, cette présentation est un petit peu en avance sur l'année 2012, qui sera l'année Grimm, pour le bicentenaire de la publication du recueil. Donc en tout cas, proposer déjà ces préfaces, qui sont vraiment des textes fondateurs sur le plan théorique, c'est-à-dire qu'ils créent un objet nouveau, le conte populaire, disons, conte à la manière des frères Grimm, et son étude, en même temps qu'un genre, il propose son étude. Ces textes-là, il nous paraissait fondamental de les proposer, et puis aussi de pouvoir proposer une nouvelle fois au public francophone des textes auxquels n'ont accès que les germanistes, ou en tout cas les lecteurs avertis qui lisent au moins l'allemand, puisque l'essentiel de la recherche sur les contes de Grimm s'est fait naturellement en allemand. Donc c'était l'idée de proposer cette synthèse-là, tout en se référant à des outils indispensables, connus internationalement, à savoir le catalogue international Arne Thompson, qui recense les contes types, donc l'armature narrative, hein, les différentes intrigues, de tous les contes types attestés à l'échelle internationale, et puis bien sûr le catalogue du conte populaire français. Ça permet de croiser toutes ces informations-là. Donc ça, c'était vraiment les outils essentiels qui m'ont servi à confectionner l'appareil critique, en complément bien sûr de tous les travaux menés en langue allemande. Donc voilà ce qu'il en est pour le projet réel des éditions Corti. C'est vrai qu'il faut préciser que les contes de Grimm faisaient partie, dès le début, des recueils majeurs envisagés pour la collection Merveilleux, cette collection bleue. Les frères Grimm devaient en faire partie dès le début. Il a fallu attendre un petit peu que nous nous rencontrions, Fabienne Raffoz et moi, pour concrétiser ce projet.
Vous avez même attendu beaucoup, puisque c'est le numéro 40.
Ça, c'est le hasard qui a mis le temps pour bien faire les choses.
D'accord. Alors justement, vous avez travaillé en relation avec les contes types, donc ce qui est l'occasion de se tourner vers Nicole Belmont, puisque ce sont des contes qui sont donc associés aux contes de la tradition orale, qui viennent de la tradition orale, et pourtant ce sont des contes écrit. Les contes de Grimm ont été étudiés par rapport aux contes types, donc ces contes qui sont recensés comme espace narratif avec des motifs que l'on va retrouver d'un conte à l'autre selon les aires géographiques et selon les versions. Et Nicole Belmont, qui travaille sur le conte de tradition orale, va justement nous parler des contes de Grimm en relation avec les contes types, mais aussi peut-être évoquer le fait que ces contes sont également entrés dans l'écriture, donc ont été figés d'une certaine manière par les frères Grimm.
Alors effectivement, c'est une date très importante que celle de la publication, enfin des contes des frères Grimm, de ce recueil. Donc première édition 1812-1815. Qu'est-ce que ça marque ? Ça marque l'introduction dans la culture lettrée, je dirais occidentale, européenne, des contes de tradition orale, qui jusque-là étaient quelque chose de bon, d'ignoré, pas complètement, mais qui bon, ne devait pas faire partie de la culture lettrée. C'était autre chose, c'était grossier, c'était bon. Effectivement, il y a cette prééminence de l'écriture qui existait à l'époque. Alors, il est évident que l'écriture change la nature du conte. Bon, le conte de tradition orale existe pour chacun, enfin pour chaque conte type, en des multitudes de versions, un petit peu différentes les unes des autres. Là, il n'y a qu'un seul texte. Bon, effectivement. Je dirais figé en dépit de sa beauté. d'autre part, Et qu'est-ce qui se passe? C'est que, effectivement, l'écriture, donc la lecture effectivement, des contes après, change bon, l'idée qu'on peut se faire du conte, dans la mesure où quelque chose d'important se passe quand on écoute un conte, c'est qu'à ce moment-là, chacun peut se forger des images mentales de ce qui est raconté. Il est évident que le texte, lui, ne permet pas, enfin, c'est fantaisie. Bon. Donc, disons, cette introduction enfin, dans la culture lettrée des contes enfin, qui sont dus au Grimm, et il faut leur en savoir gré aussi, comporte effectivement une certaine dénaturation du conte d'origine, du conte qui était raconté. Et donc, du même coup, il donne une forme, je dirais, canonique au conte. À partir de là, bon, le conte, c'est ce qu'on trouve dans le recueil des Grimm. Voilà. Et on ne peut pas imaginer, ou difficilement imaginer, le conte raconté, le conte jamais le même, enfin, quand on le raconte, effectivement, parce que la mémoire bon, est infidèle. Et donc l'invention vient suppléer quelquefois chez les conteurs et chez les conteuses de tradition ce qui pouvait manquer tout à coup à la mémoire. Et en fait, bon, ce qui est bon, tous les écarts induisent, enfin dans l'oralité, chaque écart induit une signification supplémentaire ou une signification un petit peu différente. Un texte est un texte et il ne bougera plus. Et effectivement, c'est le prix à payer enfin, pour cette introduction des contes dans la culture lettrée, parce qu'à partir de là, alors, il est évident que bon, la France, de ce point de vue, bon, ne tient pas la tête de l'intérêt pour les contes, puisque bon, il a fallu attendre si longtemps une traduction intégrale et en particulier non seulement une traduction fidèle, mais aussi tout cet éclairage qu'apportent les magnifiques préfaces enfin, des frères Grimm qui bon, éclairent enfin, leur idée sur le conte. Alors il y a encore un inconvénient, enfin, si je puis dire, enfin, un inconvénient qui est aussi un avantage bon, à ce passage à l'écrit dont ils sont responsables, c'est que effectivement écrit, les contes paraissent des récits assez simples, bon, un peu naïfs. Et qui est-ce qui est simple et naïf? Ce sont les enfants. Donc, il y a un passage comme ça, des contes vers les enfants, des récits bon, aussi simples ne pouvaient être destinés qu'aux enfants. Et donc il y a d'où ce titre enfin conte des enfants et de la maison, alors que je crois que c'est Jacob qui interrogeait bon pour savoir si effectivement ces contes à l'origine étaient pour les enfants. Il dit qu'il n'en sait rien, en fait. Bon, qui ne sait pas trop. Mais bon, c'était raconté à l'intérieur de la maison, donc les enfants pouvaient les entendre. Enfin, bon. Donc là, il y a aussi enfin, une nouvelle ambiguïté qui est en quelque sorte le prix à payer. Et c'est vrai que les grands contes merveilleux n'étaient de tradition orale. Elle n'était pas racontée aux enfants. Il y a bon, Ariane de Félice qui a travaillé en Brière, en Grande Brière, auprès des Vanniers, juste après la guerre, enfin dans les années 50. Un de ces bons conteurs lui dit « Tu sais, ces contes-là, il ne faut pas les raconter aux enfants. Hein, ils ne sont pas assez vieux pour les comprendre. » Donc, alors que, bon, maintenant, effectivement, grâce à ça, il est évident que les contes, c'est quelque chose qui est admis. Les contes, c'est pour les enfants. Voilà.
Mais c'est vrai qu'au début du XXe siècle, les contes n'entraient pas à l'école. Par exemple, Maria Montessori, Pauline Kergomar ne voulaient pas qu'on raconte de contes à l'école, ouais. Pour des raisons diverses, hein, parce que le merveilleux était jugé donnant des idées fausses sur la réalité, d'une part, et puis en raison de leur violence. Et les contes de Grimm sont quand même souvent très violents. Peut-être que Natacha va évoquer la question de la violence des contes qui a d'ailleurs donné lieu à certaines exclusions, pardon, je parle dans le micro, à certaines exclusions de contes dès la deuxième édition.
Alors effectivement, la deuxième édition, elle est très importante dans l'histoire du recueil parce que la réception de la première infléchit considérablement la composition. C'est-à-dire que même au plus près des frères Grimm, leurs amis Achim von Arnim et Clemens Brentano leur reprochent le caractère très violent de certains contes, le caractère parfois très érotique d'autres. Par exemple, le tout premier, le conte du roi Grenouille et Réponse. Donc, les frères Grimm, dans leur préface à la deuxième édition, disent eux-mêmes qu'ils ont supprimé tout ce qui pourrait paraître gênant, inconvenant pour les enfants. Et c'est à partir de la deuxième édition, 1819, que le conte devient vraiment le recueil devient vraiment destiné aux enfants, donc conte pour les enfants et la maison. Cela dit, il désérotise le conte, mais il ne supprime pas la violence. Alors, certains textes sont supprimés, par exemple les enfants qui jouent au boucher, donc qui fait partie des contes retranchés, qui est un petit texte très court, très, très impressionnant par son caractère extrêmement sanglant. Et la violence demeure dans de très nombreux textes, par exemple Cendrillon.
Ah oui.
Où on est tellement marqué en France par l'image du conte de Perrault que quand on découvre le texte des Grimm, on est vraiment saisi. Les sœurs se tranchent allègrement, l'une le gros orteil, l'autre un morceau du talon pour enfiler la petite pantoufle. Donc le sang coule, bien sûr. Et puis c'est au moment où le prince les emmène sur son cheval qu'on décrit les bas tachés de sang, les bas blancs tachés de sang, et le sang qui dégouline du soulier. Et la fin, effectivement, c'est l'apothéose pour ce qui est de la violence, puisque les deux sœurs veulent profiter du bonheur de Cendrillon. Elles se placent l'une à droite, l'autre à gauche, lorsque les mariées vont à l'église. Les colombes qui ont aidé Cendrillon pendant toute l'histoire sont perchées sur les épaules des jeunes mariées. En allant à l'église, elles crèvent un œil à chacune des deux sœurs. Et lorsque le cortège sort de l'église, les sœurs ont changé de place, elles se font crever l'autre œil. Et elles furent punies de cécité pour le restant de leur jour. Ça se termine comme ça. Donc, toute violence n'est pas absente. Et c'est vrai que les chercheurs qui se sont penchés sur la question de la morale, savoir s'il y avait une morale dans les contes de Grimm, quelle était cette morale, on dit effectivement que la violence, en général, elle reste. Elle est présente parce qu'elle est justifiée. C'est toujours un châtiment. C'est toujours quelque chose que l'on parvient à comprendre. Il n'en reste pas moins que dans certains contes, on est face à de la violence purement gratuite. Et c'est vrai que c'est assez déroutant. Ces textes se comptent sur les doigts d'une main. Mais notamment dans les tout premiers récits, il y a alors je voudrais pas vous dire de bêtises. La bonne affaire, non, c'est pas celui-là. Excusez-moi, j'aurais dû noter tout ça pour moi. Voilà, c'est le joueur de flûte dans la forêt, l'étrange musicien. C'est le huitième conte du recueil où on a un violoneux, qui est dans la forêt. On ne sait pas bien pourquoi. Il s'en prend à différents animaux. Il sort son violon pour trouver de la compagnie. Arrivent différents animaux et il leur dit simplement « Mais non, c'est pas toi que je voulais voir ». Et il accroche un renard en haut d'un arbre, en haut de deux petits arbres, si bien que le renard est coincé dans les airs, etc. On ne sait pas bien pourquoi on a cette violence purement gratuite, ce qui paraît assez choquant, sachant que les animaux ont par ailleurs un rôle vraiment d'adjuvant extrêmement important dans tout le registre des contes merveilleux. Voilà, donc ça reste assez intrigant. Par ailleurs, les contes supprimés en raison de leur violence, donc il y a ces faits divers des enfants qui jouent au boucher après avoir vu leur père tuer le cochon. Vous imaginez ce qui se passe pour l'enfant qui a le rôle du petit cochon. Donc il y a deux petits récits très brefs et aussi d'autres récits. Le premier des contes retranchés, qui est un récit d'origine, en fait, un conte étiologique qui s'appelle Le Rossignol et l'Orvet, qui est attesté. Alors il est supprimé à la fois en raison de sa violence et puis aussi du fait de son origine française, hein, puisqu'on c'est une version que l'on rencontre en France également. Voilà, donc il y a plusieurs choses comme ça où manifestement les frères Grimm entendent les reproches qu'on leur fait et décident de ne plus mettre ce genre de texte entre les mains des enfants. Voilà, peut-être que je peux rattraper un petit peu la réponse à votre première question tout à l'heure, puisque je suis restée, je n'ai pas parlé ni du titre, donc là maintenant c'est chose faite, et surtout du découpage, puisqu'en fait l'idée, si vous prenez la traduction d'Armel Gern, donc chez Garnier Flammarion, vous verrez que le découpage entre les deux tomes n'est pas exactement le même que celui dans l'édition de Corti. La raison en est simple, c'est que nous avons voulu conserver absolument la répartition des contes entre les deux tomes voulue par les frères Grimm. Alors ça peut paraître un petit peu anodin, puisque les frères Grimm terminent le premier tome sur le conte numéro 86 et Armel Gern s'arrête au conte 92. En fait, il y a beaucoup plus qu'une histoire de chiffres. Les frères Grimm choisissent un conte ouvert pour clore le premier volume, qui est Le Renard et les Oies. Voilà, je ne sais pas si je peux m'autoriser à vous en dire un petit peu plus, lire, parce qu'il est très bref. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui permet d'avoir une bonne idée du projet qu'avaient les frères Grimm dans la conception de leur recueil, puisqu'en fait, chacun des deux tomes se termine par un conte ouvert. Donc, Le Renard et les Oies, c'est un conte qui fait une demi-page. Et je vais vous le lire, vous verrez comment ça marche. Un renard arriva un jour dans une prairie où se trouvait un troupeau de belles oies bien grasses. Il éclata de rire et dit « Mais j'arrive à point nommé, vous êtes regroupés bien comme il faut et je vais pouvoir vous croquer les unes après les autres. » Les oies se mirent à cacarder de frayeur, à s'agiter et à supplier lamentablement le renard de leur laisser la vie sauve. Mais le renard ne voulut rien entendre et dit « Il n'y a pas de grâce qui tienne, vous devez toutes mourir. » Finalement, l'une des oies s'arma de courage et parla ainsi « Puisque nous devons, pauvres oies que nous sommes, dire adieu à notre vie encore si jeune et si fraîche, accorde-nous cette grâce unique et permets-nous une dernière prière afin que nous ne mourions pas dans nos péchés. Après, nous nous mettrons en rang pour que tu puisses à ton aise choisir la plus grasse d'entre nous. » « Oui, dit le renard, ce n'est que justice et c'est un désir pieux. Priez donc, j'attendrai le temps qu'il faudra. » Et la première oie entonna une assez longue prière qui ne disait que « Ga, ga !» Et comme elle ne semblait pas prête de s'arrêter, la deuxième n'attendit pas que son tour fût venu et se mit à cacarder, elle aussi, « Ga, ga !» La troisième et la quatrième en firent autant, et les voilà bientôt qui cacardent toutes ensemble. Une parenthèse s'ouvre, et quand elles auront fini de prier, on vous racontera la suite de ce conte. Mais pour l'instant, elle prie toujours. La parenthèse se ferme et le conte se termine comme ça. Voilà, je pense que le conte donne vraiment l'explication, il n'y a pas vraiment besoin de commentaires supplémentaires. Effectivement, les deux volumes étant déjà déséquilibrés au départ, nous avons essayé d'y remédier dans la mesure du possible en répartissant la part critique entre les deux tomes. Mais en tout cas, ça nous paraissait absolument fondamental. Alors bien sûr, ce n'est que pure forme, puisqu'après le conte numéro 200, La Clé d'Or, suivent les 10 légendes pour les enfants. Et suivent à la fois dans l'édition allemande de référence et dans l'édition Corti les contes retranchés. Mais du vivant des frères Grimm, on s'arrêtait bien au conte 200, chiffre rond qu'ils n'avaient pas voulu briser d'ailleurs, puisqu'ils ajoutent un conte après le 151. On a un conte 151 étoiles pour ne pas rompre l'harmonie du chiffre magique 200. Voilà, donc pour le découpage qui nous semblait vraiment, nous tenait très à cœur. Pour ce qui est de l'autre question de la fidélité, en fait, effectivement, j'y suis revenue en entendant parler Nicole Belmont tout à l'heure, bien sûr. Les frères Grimm, effectivement, écrivent, figeant, bien sûr, le conte, mais le sauvant aussi de cette manière même. Et ils disent eux-mêmes, dans leur préface, ils disent de manière très, très, très appuyée qu'ils sont restés fidèles. Alors, on sait aujourd'hui qu'ils n'ont pas, comme le prétendait le mythe qu'ils ont forgé eux-mêmes et auquel les chercheurs ont cru pendant des dizaines d'années, qu'ils n'ont pas battu la campagne avec leur magnétophone, mais bien sûr leur bloc-notes à la main, pour collecter les comptes. En fait, si les comptes venaient à eux par le biais d'un cercle d'informateurs au sein de leurs amis à Kassel, par le biais de la correspondance avec des personnes de leur entourage aussi, à qui ils avaient confié cette mission de collecter pour eux des récits, mais cela n'empêche pas qu'eux se voulaient vraiment fidèles au récit. Alors c'était l'objet d'ailleurs d'une controverse qui est restée célèbre avec Brentano et Arnim, qui leur disaient « mais vous ne me ferez pas croire que Wilhelm et toi », donc c'était une correspondance qui est devenue célèbre, « vous ne me ferez pas croire, écrit Arnim, que vous n'avez rien changé, que vous avez noté les comptes tels que vous les avez entendus ». Bien sûr que non. Ils ont réécrit, ce qui n'empêchait pas, pour eux, la fidélité. C'est la fidélité dont ils se réclament en disant « Nous n'avons rien changé, bien sûr que la forme vient de nous, mais nous n'avons rien changé à la substance du récit. » Et en réponse aux reproches de ce manque de fidélité de Arnim, Wilhelm Grimm répond par une très belle image en disant « Finalement, la fidélité, c'est un peu comme si, en cassant un œuf, on essayait de ne pas rompre le jaune, de ne pas briser le jaune de l'œuf, puisque une fidélité mathématique est bien sûr impossible. » Voilà. Alors, pour ce qui est de la langue, effectivement, c'est toujours difficile quand on traduit après, quand on passe après des traducteurs qui ont vraiment donné un travail d'une grande valeur littéraire comme Armel Gern et Marthe Robert. C'est toujours difficile de se positionner, puis surtout de le faire sans avoir l'impression de critiquer. Ce que je dis toujours et ce que je trouve, c'est que la traduction d'Armel Gern fonctionne extrêmement bien quand on n'a pas besoin d'aller voir ce qu'il en est dans le texte original. C'est-à-dire qu'il fait vraiment le travail que fait tout bon conteur en s'appropriant le récit et en le transmettant à sa manière, avec vraiment en faisant preuve de style. À mon sens, c'est ce que fait Armel Gern. Et Fabienne Raffoz, qui connaît très bien évidemment tous ces recueils, dit toujours que Armel Gern a Armel Gernisé les contes, de toute façon. Alors on reprend un petit clin d'œil à ce qu'écrit Nicole Belmont à propos de Charles Perrault, si je ne me trompe pas, qui a Charles de Perrottiser les contes, d'une certaine manière. J'espère ne pas déformer, mais il me semble bien avoir lu ça.
Oui. Perrault, c'est un tout autre travail, je dirais, que celui des Grimm, qui, effectivement, enfin bon, moi, je pense en particulier au fait que les Grimm trouvent les récits qu'on leur amène, en quelque sorte, un peu pauvre, et ça fait partie effectivement de ce jugement sur les contes, qui sont simples, qui sont naïfs, enfin ce que je disais tout à l'heure. Donc, ils ont une tendance, ils le reconnaissent d'ailleurs, à fabriquer un conte beaucoup plus complet, justement en fondant ensemble plusieurs versions, ou en empruntant enfin un motif ou un épisode enfin intéressant à un autre conte qu'ils insèrent enfin dans celui enfin bon qui voulait effectivement éditer. Perrault, c'est très très différent. Il pique un peu dans la tradition orale. De quelle manière, c'est un petit peu compliqué. Enfin, bon, je vous renvoie aux travaux très importants de Soriano, enfin sur les contes de Perrault. Mais sa réécriture est beaucoup plus importante, mais en même temps invisible au premier coup d'œil. Donc j'ai le sentiment qu'il fait œuvre littéraire beaucoup plus importante que les Grimm, mais que sa réécriture est une espèce de parodie enfin du ton populaire, du style populaire. Mais en même temps, il y a une double destination chez Perrault, c'est-à-dire qu'il y a Bon, officiellement, la destination enfantine. Et il dit, bon, c'est bien d'utiliser les contes, enfin, pour faire avaler, il emploie le terme avaler, des vérités aux enfants qui n'ont pas la capacité, effectivement, de raisonnement suffisant pour l'instant. Mais en fait, tout ce travail est un travail littéraire qui est à l'usage des salons et qui est pris enfin, dans cette grande mode commençante à la fin du XVIIe siècle du conte, et puis bon, dont on sait que pendant un siècle la France s'entichera avec toute une série comme ça de générations d'écrivains ou plus spécialement d'ailleurs d'écrivaines, si je puis dire, parce que ce sont les femmes qui s'adonnent avec délice à ces écritures bon, extrêmement sophistiquées, ampoulées, et qui, bon, petit à petit, n'ont plus rien à voir enfin, avec le conte de tradition orale, même si on retrouve quelques motifs comme ça, mais noyé, enfin, bon, sous un déluge de descriptions, je dirais. Donc, Perrault, c'est à la fois génial et roublard. Voilà. Ce n'est pas le cas des Grimm, du tout.
Alors, peut-être pour rebondir justement là-dessus, les frères Grimm ont eux aussi le souci d'avoir une langue populaire, mais avec cet aspect parodique en moins. C'est-à-dire qu'ils ont essayé, ils ont créé une langue, bien sûr, qui est très littéraire, qui est orale écrite. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de créer une illusion d'oralité très littéraire, pour une raison bien simple, c'est que quand ils se sont lancés à la recherche des contes, ils étaient guidés, ils se sont appuyés sur deux textes qui avait été collecté dans le nord de l'Allemagne par le peintre et poète Philippe Otto Runge. Donc c'est le conte du genévrier et le conte du pêcheur et de sa femme. Et en fait, ces récits ont vraiment conditionné leur collecte à la fois sur le plan linguistique, puisque c'est une langue extrêmement travaillée, donc ce sont des textes notés en dialecte, ce qui a une grande importance aux yeux des frères Grimm aussi. Et ce sont des récits qui ont une trame narrative extrêmement complète. Donc, ils ont, pour eux, c'était vraiment le modèle, les contes idéaux, et c'est pour tendre vers ces modèles-là qu'ils ont vraiment procédé par contamination. Et ça, ils ne s'en cachent pas d'ailleurs, puisque dans leurs commentaires, en fait, dès la deuxième édition, les contes paraissent en deux volumes, toujours, avec un troisième volume de commentaires. Et ils disent à chaque fois dans les commentaires, non pas de quelle personne ils tiennent le conte, ça ils le notent en marge de leur exemplaire de la première édition, donc c'est ces fameux exemplaires qui sont entrés au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais ils indiquent que le conte est originaire de telle région d'Allemagne, et ils recensent également les autres versions qu'ils connaissent, en disant bien, à cette version nous avons emprunté tel motif, tel épisode vient de telle autre version, etc. Donc on voit vraiment qu'ils ont procédé vraiment en empruntant et en refondant tout ça pour tendre à ce qui pourrait être ou ce qui était selon eux la version idéale, la version originelle du conte. Et ça se traduit aussi dans la manière, dans la langue. C'est-à-dire que Wilhelm écrit à son frère dans une lettre qu'il a vraiment eu le souci d'insérer dans les contes les expressions populaires. Il se tient toujours à l'affût de ces expressions populaires, de ces proverbes, et il les ajoute justement pour créer ce ton vivant. On voit aussi, quand on compare les différentes versions, alors la première version que l'on connaît en général, c'est avant 1812, c'est une première collection de contes qui remonte à 1810. C'est les fruits de leur collecte qu'ils ont transmis à Brentano, qui avait à l'origine le projet d'éditer lui-même un recueil de contes, projet qui n'a pas vu le jour, et finalement les frères Grimm les publient eux-mêmes. Et donc, quand on compare cette toute première version aux différentes versions connues, et puis finalement à celle à laquelle le recueil a abouti en 1857, on voit à quel point les récits se sont étoffés. Alors parfois on passe vraiment du simple au double, voire au triple, parce que les frères Grimm ajoutent énormément de dialogues, des descriptions, un petit peu, bien sûr le conte est très réfractaire à la psychologie, mais quelques petits éléments sur les sentiments des personnages, ou sur le fait que par exemple dans le conte du roi Grenouille, la fille du roi pleure toutes les larmes de son corps et à fendre l'âme à une pierre. à fondre le cœur d'une pierre, pardon. Vraiment, ils ajoutent ce genre d'éléments et on obtient quelque chose qui est assez touffu. C'est vrai que quand on ouvre les volumes de l'édition allemande, on a un texte extrêmement compact avec des paragraphes très longs, très imposants, des phrases très longues, avec beaucoup de parataxes et de points-virgules, articulés simplement par « et » et « puis »,« und »,« und dann », etc. Mm-hmm. Alors, à la traduction, se pose la question du sort que l'on réserve à cette parataxe, parce que le premier jet par lequel on passe nécessairement donne quelque chose qui n'est pas très lisible. Ça, on est bien forcé de l'admettre. Et toute la question est de savoir quelle liberté on peut prendre quand on essaie de rester au plus près du texte, pour qu'il reste quand même lisible, mais sans l'enjoliver non plus. Donc, la question était vraiment de trouver un juste dosage pour essayer de rester dans ces périodes, puisque finalement, c'est l'oralité. L'oralité comporte, elle aussi, une certaine part de maladresse, puisqu'on est... On n'est pas dans l'écriture, on est dans quelque chose qui se fait naturellement. Voilà, donc c'était un dosage... vraiment, voilà, il a fallu les lire, les relire, les dire, les lire à haute voix pour essayer de trouver cet équilibre et faire certains choix. Alors, si vous avez ma traduction entre les mains et celle d'Armelgarn ou de Marthe Robert, il y a des divergences. Notamment, nous ne sommes pas d'accord, peut-être que c'est une manière un peu rapide de le dire, sur la traduction de Hänsel et Gretel que je conserve et qui est traduit à la fois par Marthe Robert et par Armelgarn, par Jeannot et Margot. Personnellement, pour moi, Jeannot et Margot, j'ai des associations qui sont complètement différentes spontanément à ce qu'on entend dans Hänsel et Gretel, qu'on prononce à la française Hänsel et Gretel ou à l'allemande d'ailleurs, peu importe, mais je trouve que ce sont des prénoms qu'on a malgré tout vraiment dans l'oreille, donc qui ne font pas de difficulté. Alors en général, c'est justement le parti que j'ai pris pour la traduction des prénoms, je les ai conservés, hormis quelques-uns qui pouvaient vraiment être un petit peu énigmatiques pour un lecteur francophone, c'était Frieda und Katha Lieschen, Frédéric et Lisette. Carmelgarn adapte à sa manière d'ailleurs en disant le Frédé, donc ce sont des diminutifs en allemand, il dit le Frédé et la chatte Lise en gardant cette jolie image qu'on a dans le nom. Alors effectivement, difficile de reprendre la traduction d'un des prédécesseurs aussi. Donc moi, c'est vrai que les seuls prénoms que j'ai adaptés, puisque les autres ne posaient pas réellement de difficultés. Voilà. Et la question des dialectes, alors c'est vrai que devant un public francophone, elle se pose moins. Mais lorsque j'ai présenté cette traduction en Allemagne, les Allemands, bien sûr, ont tout de suite saisi l'occasion de dire « Mais comment vous avez fait pour les dialectes ?» Puisqu'en fait, sur les 239 contes, si on les compte tous, il y en a une dizaine, 12 en dialecte de différentes régions. Alors, il y a le nord de l'Allemagne, il y a des dialectes autrichiens. Et les Allemands étant extrêmement attachés à cette particularité de leur langue, ils me disaient, mais comment vous avez fait ? Donc, effectivement, dans la mesure où il s'agissait d'une traduction et d'une édition scientifique, ce n'était pas du tout le lieu de pasticher un dialecte. C'est une suggestion qui m'a été faite en France. Pourquoi vous n'avez pas vous-même inventé une langue ? Alors, ce n'était pas vraiment le propos de cette édition. Et puis, comment faire pour choisir ? Ne parlant moi-même aucune langue régionale. Alors déjà, le statut des langues régionales et celui des dialectes allemands est vraiment différent. C'est vraiment quelque chose qui n'a rien à voir. Comment faire pour choisir ? Ça aurait été complètement arbitraire. Donc, oui, bien sûr, la traduction y perd, mais je me suis contentée de signaler en note qu'il s'agissait d'un récit en dialecte. Voilà. Dialecte qui pose parfois des problèmes de traduction, bien sûr, puisqu'il y a des formes qui ne sont pas attestées dans les dictionnaires. Donc, on a recours à des dictionnaires allemands standards vers les différents dialectes qui existent. Et puis, fort heureusement, j'ai plusieurs amis allemands linguistes donc, qui sont vraiment spécialistes de tous ces faits de langue qui ont pu aussi m'aider à résoudre quelques points épineux. Mais vraiment, c'est toute la richesse. Et les frères Grimm, vraiment, je terminerai pour cet aspect là-dessus. Dans leur préface, ils écrivent que s'ils avaient pu collecter davantage de contes en dialecte, ils disent, je les cite en déformant à peine, que le recueil y aurait beaucoup gagné, puisque c'est vraiment quelque chose qui est fondamental pour l'identité allemande, et les frères Grimm conçoivent leur recueil comme une démarche identitaire. On est en pleine période de guerre napoléonienne, juste après, et c'est vraiment quelque chose qui est une volonté qui est très appuyée. Donc avant de se sentir allemand à cette époque, même si la dimension allemande est très importante, on se sent sujet d'un État, d'un royaume bien précis, la Hesse en l'occurrence pour les frères Grimm, et vraiment les dialectes apportent cette pierre à l'édifice commun de cette langue allemande.
Merci pour toutes ces précisions très éclairantes sur à la fois la fidélité des Grimm et la vôtre, et sur toutes ces arcanes de la traduction. Alors je voudrais évoquer le fait que les contes des Grimm se subdivisent en sous-genres dans les contes. Il y a des contes d'animaux, des contes merveilleux, des contes facétieux, des contes à formule. Or, François Fièvre, dans sa thèse, j'en profite d'ailleurs pour dire qu'en 100 ans, il y a eu 3 thèses sur les contes des Grimm, ce qui prouve quand même qu'ils sont fort peu étudiés en France. Il y a eu la thèse d'Ernest Tonnelat en 1912, donc 100 ans après la première édition, la thèse de François Fièvre en 2007 et la thèse de Natacha Rimasson-Fertin en 2008. Donc peut-être que l'avenir va développer la recherche universitaire autour des frères Grimm en France, mais c'est vrai que ce sont toujours des thèses de comparatistes ou de germanistes. Tonnelat était germaniste et la thèse de François Fièvre est un historien d'art. Alors il disait qu'il y a 13% de contes d'animaux, 66% de contes merveilleux, 17% de récits facétieux et 4% de contes à formule. On pourrait aussi dire qu'il y a des récits, des contes chrétiens, mais on va les mettre dans le merveilleux, des contes étiologiques. J'aimerais bien qu'on évoque un petit peu la question du merveilleux, qui est quand même prédominant. Et pourtant, ce ne sont pas des contes de fées comme les contes de fées à la française. D'ailleurs, j'ai lu que dans Rose d'Épine, qui est le nom de La Belle au bois dormant en version originale, entre la première et la deuxième édition, le mot, alors je ne parle pas allemand, le mot feen, qui veut dire fée, voilà, est devenu Waisenfrauen, femme sage, que Marthe Robert traduit par sage-femme. et voilà, donc il y avait un refus de la féerie à la française. Alors peut-être que Nicole Belmont pourrait nous rappeler les liens entre le conte et le mythe, puisque c'est quand même lié à la question du merveilleux.
Oui, c'est une grosse question, effectivement. Bon, d'abord parce que le mot mythe a une extension très 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 grande, et en particulier, enfin bon, dans l'usage contemporain où n'importe quoi, enfin, est appelé mythe. Enfin, je vous renvoie au travail de Roland Barthes, par exemple. On va tâcher quand même de s'en débrouiller. Et ce genre de conte-là était donc appelé merveilleux, mais à une époque en Allemagne, on parlait de conte mythique. Bon, je crois que le terme n'a pas été retenu, ça voulait bien dire qu'il y avait peut-être quelque chose de mythique dans ce genre de contes. Bon, contrairement bien entendu aux contes facétieux ou aux contes d'animaux, enfin bon, qui se donnent pour ce qu'ils sont, enfin bon, on comprend tout de suite de quoi il peut s'agir. Alors, bon, je dirais que ce sont des contes qui évoquent des thèmes qu'on pourrait appeler mythiques sans être mythes. Alors effectivement, bon, je suis de formation anthropologue, donc j'aime bien une définition assez stricte du mythe, qui est un récit qui raconte en particulier les origines, et qui sont des récits sacrés qu'on se transmet. Ce qui n'empêchait pas, enfin bon, ces sociétés exotiques d'avoir à côté des choses qu'on peut traduire tout à fait par conte, c'est-à-dire des récits plus anodins. Alors bon, moi je dirais que effectivement ce sont des thèmes mythiques, mais qui concernent plutôt, enfin bon, le destin humain, c'est-à-dire Effectivement, qui suit un personnage, garçon ou fille, quelquefois depuis sa naissance notable, et à partir du moment où, d'une manière ou d'une autre, il est obligé de quitter sa famille, ses pères et mères, de suivre en quelque sorte un chemin initiatique. Bon, qui ne se dit pas du tout comme ça, enfin, mais qui effectivement est fait d'épreuves successives, d'échecs, de réussites, et pour arriver donc finalement à l'initiation réussie. En principe, c'est toujours réussi, hein. Bon, le conte est optimiste, ça c'est certain. Qui permet d'accéder au mariage, un mariage prestigieux bien entendu, mais qui est quelquefois précédé par le mariage avec la même personne, mais qui n'est pas reconnu socialement. Donc il y a encore une étape à franchir, et quelquefois pour les femmes même c'est une étape qui comporte le fait qu'elle ait des enfants avant la reconnaissance totale. Donc c'est le récit de ce que chacun, chaque enfant, chaque adolescent doit parcourir, mais avec des images qui sont effectivement loin de ce que pouvaient être les épreuves réelles à l'époque et encore de nos jours, je dirais, qui permet justement de voir qu'il y a tout un chemin à parcourir avant d'accéder à l'état d'adulte, et un chemin qui peut être très très long, donc à travers les épreuves. Et j'aime beaucoup cette expression des conteurs canadiens de langue française qui dit ce sont des contes de traverse et de misère. Et il y avait une conteuse qui disait quand le héros est heureux, ça ne dure pas, ça y est, le conte est fini. Donc il s'agit bien de ça. On ne va pas au-delà, c'est pas la peine. Et ça comporte vraiment très régulièrement la séparation avec la famille d'origine. Et donc il s'agit... je vais employer des termes anthropologiques un peu barbares. Il s'agit de passer en quelque sorte de la consanguinité à l'alliance, c'est-à-dire des liens avec la famille d'origine, la famille consanguine, d'où on est issu, et nouer des liens d'alliance qui permettront de continuer la lignée. Mais pour ça, il faut partir, il faut quitter sa famille. Et par exemple... on s'aperçoit qu'il y a des contes facétieux qui racontent l'inverse. Jean Le Sault, lui, il est incapable de quitter sa mère. Il fait bêtise sur bêtise parce qu'il prend le langage à la lettre. Et donc, inlassablement, il revient vers sa mère et il n'y arrivera jamais. Donc, ces récits de Jean Le Sault sont comme la contrepartie des contes merveilleux. Alors, il y a plus aussi, dans tout ça, mais bien caché. C'est caché sous le récit, qui est plaisant, sous les images, sous les figurations. C'est dans un temps qui n'est pas le temps actuel, jamais. Permet peut-être de dire, j'avais rapproché ce mot de Freud qui dit que le rêve se passe sur une scène autre. Et le conte aussi, c'est donc une autre scène, que la vie est réelle, bien que ça comporte plein d'éléments de la réalité, tout à fait quotidienne. À ce moment-là, on a vraiment l'impression que il s'agit en fait de nous, enfin de transporter notre imaginaire ailleurs, et c'est pour ça que je n'aime pas beaucoup enfin que les adaptations de contes pour enfants les installent dans la vie contemporaine, dans la mesure où c'est de la paraphrase à ce moment-là. Bon, donc qu'est-ce que ça peut apporter enfin à des enfants qu'on leur raconte les difficultés enfin qu'ils rencontrent, parce qu'il faut leur raconter justement les mêmes choses mais sur une scène autre. Alors ce sont évidemment pas des mythes au sens strict, exact du mot, mais ça peut évoquer, enfin ne serait-ce d'ailleurs, et là je renvoie à Natacha, des problèmes eschatologiques, puisque les héros et les héroïnes, ils peuvent aller dans un autre monde et en revenir. Disons, je pense qu'il s'agit là, de l'optimisme outrancier peut-être du conte merveilleux, dans la mesure où on dit aller dans l'autre monde, c'est mourir, bien entendu, mais on peut en revenir et puis être heureux sur cette terre. Alors peut-être que je passe la parole à Natacha pour qu'elle nous dise un mot de ces voyages dans l'autre monde, des contes.
Alors, je vais peut-être juste résumer d'abord ce qu'il en est du merveilleux, parce qu'effectivement, quand on parle de merveilleux, on a présent à l'esprit tout de suite la quantité d'objets magiques, de métamorphoses qui interviennent à chaque page. C'est vraiment ce à quoi on s'attend le plus. Et je vais reprendre aussi la question qui était posée tout à l'heure sur le merveilleux, sur les contes chrétiens, parce qu'en fait, on a un mélange dans le recueil des frères Grimm de merveilleux chrétiens, où le troisième conte du recueil, c'est l'enfant de Marie, donc on est au paradis, tout simplement. Donc l'autre monde dans lequel se rendent les héros et héroïnes peut être un monde merveilleux lointain, tout simplement, mais il peut tout aussi bien être le paradis ou l'enfer, ce qui ne pose absolument aucun problème pour le retour d'ailleurs. On peut y aller et on peut tout à fait en revenir, c'est ce qui arrive la plupart du temps d'ailleurs, sans forcément que les textes ne mentionnent si le héros, enfin que le héros soit mort. C'est-à-dire que ce sont des voyages, certains interviennent après le décès, mais il n'est jamais question de l'âme. C'est simplement, on nous dit toujours, un pauvre paysan arriva au ciel ou un pauvre tailleur arriva au ciel. Mais il est vraiment incarné, puisqu'il arrive avec des ampoules aux pieds. La route a été très longue. Tout ça ne pose absolument aucun problème. Et dans d'autres contes, le voyage se fait du vivant du personnage. Donc on a ce merveilleux à la fois chrétien, dans l'image du paradis que de l'enfer d'ailleurs, puisqu'on a, on nous dépeint avec force dorure, le paradis avec le trône de Dieu et le petit escabeau, que le tailleur un peu trop curieux, en fait, il s'installe sur le trône, ce qui est évidemment inimaginable. Et puis, il se trouve que le ciel est presque poreux à cet endroit. Donc, on voit, c'est très pratique, on voit exactement ce qui se passe sur Terre. Et le tailleur voit une vieille femme qui est en train de laver du linge et qui cache deux draps, qui les met de côté pour les dérober. Il est furieux, il attrape l'escabeau sur lequel Dieu pose ses pieds, il le jette sur la voleuse. Ce que Dieu ne manque pas de remarquer à son retour, il lui dit « Mais si je jugeais comme toi, ça fait longtemps qu'il n'y aurait plus ni table, ni chaise, ni rien d'autre au paradis. Va-t'en d'ici, il n'y a que moi qui puisse juger. » Donc le tailleur quitte le paradis et se rend au purgatoire. Dans l'enfant de Marie, c'est exactement la même chose. On a, c'est l'histoire d'une petite fille pauvre, la Vierge apparaît au bûcheron, un pauvre bûcheron dans la forêt, et lui dit « Mais je vais prendre ton enfant au ciel avec moi et je m'occuperai d'elle comme si j'étais sa mère. » Et on nous décrit ça de la manière suivante. Tout va très bien, bien sûr, la petite fille vit dans l'opulence et elle mange de la brioche, elle boit du lait sucré et les petits anges jouent avec elle. Tout va très bien jusqu'au jour où Marie s'absente. Et là, on trouve le fameux motif de la chambre interdite, puisqu'elle lui donne les clés du paradis en disant « Tu as le droit d'ouvrir toutes les portes, sauf celle-là. » Et effectivement, la petite fille, la fillette ou la jeune fille à l'époque, puisque très vraisemblablement, là, on arrive au stade de l'adolescence, ouvre chaque jour une nouvelle porte. Et les petits anges se réjouissent avec elle. Et puis quand elle arrive à la porte interdite, elle se dit mais je vais quand même l'ouvrir. Les anges refusent, ils s'éloignent. Elle se dit mais de toute façon je vais juste l'entrouvrir, personne n'en saura rien. Et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit la Sainte Trinité dans in gold und glanz sitzen, vraiment dans l'or et l'éclat. Et elle ne peut pas s'empêcher de toucher. Évidemment, le doigt garde la trace de l'or, et c'est ce qui fera qu'elle sera chassée du paradis. Elle n'y retournera pas d'ailleurs ensuite de son vivant. Elle poursuit sa vie sur Terre. Et par contre, à chaque fois qu'elle met un enfant au monde, la Vierge Marie emmène l'enfant avec elle. Et on accuse effectivement la jeune reine, que l'héroïne est devenue, de manger ses enfants. On la condamne au bûcher, c'est sur le bûcher. Alors elle est muette, hein, elle ne peut parler. Et c'est seulement sur le bûcher, lorsqu'elle est vraiment sur le point d'être dévorée par les flammes, que la parole lui revient et qu'elle avoue avoir touché cet or. Donc c'est un merveilleux païen, chrétien, pardon, dans ses récits, où on voit vraiment qu'il s'agit d'un décor destiné à ce public enfantin. C'est vraiment le regard que peuvent avoir les enfants sur la vision enfantine du paradis, inspirée de ce qu'ils voient dans les églises. D'ailleurs, c'est très amusant, puisqu'il y a un des récits qui s'appelle Le pauvre garçon dans la... Non, c'est Le mariage au ciel, pardon. Un des tout derniers textes du recueil, qui relate l'arrivée d'un jeune garçon dans une église. Il a entendu un jour dire à l'église, celui qui veut aller au ciel doit toujours aller tout droit. Donc lui, il va toujours tout droit. Et il entre dans une église et ce qu'il voit est tellement beau qu'il est persuadé d'être au ciel. Donc ça, c'est un petit peu vraiment une sorte de mise en abîme, presque en tout cas de clin d'œil à cette représentation enfantine du paradis, qu'on retrouve très bien dans la description qu'en font ces contes merveilleux chrétiens, à la morale très appuyée d'ailleurs. Là, vraiment, c'est très très marqué, au point que certains critiques trouvent que ces contes en deviennent presque illisibles, puisque par ailleurs, les frères Grimm renoncent, ou plutôt se refuse à donner une morale explicite, et ça se fait parfois vraiment au détour d'une phrase, enfin en tout cas ils s'abstiennent de commentaires. Et en contrepartie à ce merveilleux païen, chrétien, pardon, décidément le lapsus est tenace, il y a un merveilleux païen qui est bien présent. Dans certains récits, on rencontre des ondines, des géants, des nains, dénommés des lutins, qui prennent différentes formes d'ailleurs, qu'on appelle parfois aussi des petits hommes de la terre, donc qui vivent dans un monde souterrain, et avec lesquels les humains ont un contact tout à fait facile. Il faut dire quand même que ces créatures païennes, alors qu'on rattache à ce qu'on appelle la basse mythologie habituellement, sont relativement restreints, disons, puisque par contre, évidemment, le diable apparaît à plusieurs reprises. Alors, quand on parle de christianisation, il y a à la fois... ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que à la fois, les contes ont été christianisés, bien sûr, alors bien avant les frères Grimm, ce qui fait qu'on a regroupé sous cette dénomination de diable toutes ces créatures... l'Église les a dénommés comme ça, mais toutes ces créatures qui étaient en fait les génies des lieux, hein, les divinités associées aux différents lieux, aux différents espaces, aux différents éléments. Donc ça, c'est vrai qu'ils restent relativement présents, mais quand même souvent maléfiques. Quand on a les personnages des ondines, donc l'ondine, c'est celle qui va voler des enfants, qui joue un petit peu trop près du puits. Ou alors c'est l'ondine à laquelle le meunier promet sans le savoir l'enfant que sa femme vient de mettre au monde dans l'ondine de l'étang, et qui bien sûr va récupérer son bien un jour que le chasseur, devenu adulte, s'approche un petit peu trop près de l'étang pour se laver les mains. Donc ce sont des êtres maléfiques, ce qu'ils ne sont pas toujours. Et donc il y a un récit que j'aime bien citer parce qu'il contrebalance un petit peu l'image qu'on peut s'en faire. Et il est beaucoup plus proche finalement des légendes, enfin au sens qu'on a dans l'allemand Sage, donc vraiment les récits de faits étranges, mais auxquels on croit. Hein. C'est encore autre chose. Par exemple, le fameux joueur de flûte d'Hamelin, qu'on considère à tort comme un conte des frères Grimm, si vous le cherchez, il n'est pas dans le recueil, pour la simple et bonne raison qu'il est dans le recueil des légendes que les frères Grimm publient en 1816-1818, donc qui suit immédiatement le recueil de contes. Le récit auquel je pense, c'est enfin ce sont trois récits plus exactement qui s'appellent Les Lutins. C'est les récits 39, 1, 2 et 3 du recueil, où on a plusieurs histoires qui se rattachent à des choses qu'on pourrait rattacher à des croyances, hein, bien attestées. Donc, tout simplement, le fait qu'un humain puisse être invité par des êtres de l'autre monde, en l'occurrence des nains, à se rendre chez eux dans une montagne creuse où ils résident, pour être le parrain d'un enfant ou pour aider lors d'un accouchement. Ça, c'est des choses qu'on retrouve beaucoup dans le domaine celtique, par exemple, aussi. Et donc, ces quelques récits font figure un petit peu de pièces presque étrangères, parce qu'ils ne sont pas du tout sur le même plan que les récits merveilleux auxquels on a affaire pour le reste. Donc on a ce récit-là, on a un récit de Changelin qui est aussi dans cette série de trois petits textes. Donc le Changelin, bien sûr, c'est lorsque les fées, selon les contextes, ou les êtres de l'autre monde ravissent l'enfant, un enfant humain, et mettent un des leurs à la place. Et il se distingue par le fait que c'est un enfant qui est particulièrement glouton, qui est assez difforme, qui a une grosse tête aussi, et qui a un comportement tout à fait étrange. Et donc là, les frères Grimm donnent un petit récit qui atteste la manière, qui donne la recette en fait qu'il faut appliquer pour récupérer l'enfant. Il faut mettre de l'eau à bouillir. Alors c'est un récit que l'on rencontre très souvent dans la tradition orale française aussi. Il faut mettre de l'eau à bouillir dans des coquilles d'œufs, et cela fait rire le Changelin, l'enfant des fées, qui dit je suis très vieux, enfin qui fait allusion à son grand âge, mais je n'ai jamais vu autant de petits pots bouillants. Enfin c'est une des formules françaises. Et à ce moment-là les fées, ou en tout cas les êtres de l'autre monde, viennent rapporter l'enfant. Donc ce sont des récits un petit peu atypiques, mais qui permettent de refléter aussi ce fond de croyances qu'on trouve dans les contes, et même dans les contes finalement retravaillés et littérarisés par les frères Grimm, finalement pour lesquels on n'a pas toujours ces clés de lecture-là, mais si on les lit sous cet angle, on peut aussi retrouver ce genre d'informations, en tout cas sur les croyances. Voilà pour cet autre versant du merveilleux païen cette fois-ci. Ce n'est D'accord. pas un lapsus.
C'est bien. Donc, nous avons le merveilleux en relation avec les mythes, le merveilleux chrétien et le merveilleux païen. Alors, je ne sais pas de combien de temps nous disposons, parce qu'on aurait pu parler aussi de la récupération des contes des Grimm par l'idéologie, particulièrement l'idéologie nationaliste allemande. L'exploitation des contes des Grimm par la psychanalyse, qui est extrêmement importante aussi. On pourrait aussi évoquer le fait que les contes des Grimm sont entrés en littérature de jeunesse finalement très tôt, puisque dès 1825, les frères Grimm publient ce qu'on appelait la petite édition, c'est-à-dire une sélection de 50 contes qui sont avec des premières illustrations et une sélection donc particulière. Donc peut-être qu'on pourrait dire un mot de cette petite édition, parce qu'elle a joué un rôle majeur, me semble-t-il. Alors moi, elle m'intéresse beaucoup en tant que spécialiste de littérature de jeunesse, mais je crois qu'elle a joué un rôle majeur pour faire connaître aussi les contes des Grimm. Je crois que c'est à partir de là qu'ils ont commencé vraiment à avoir plus de succès.
Vous avez tout à fait raison. Et alors, pour l'anecdote, cette petite édition allemande est inspirée de la première traduction anglaise. C'est-à-dire que ce best-of, entre guillemets, de 50 contes, qui avait été traduit initialement en anglais, a été repris par les frères Grimm pour une édition plus restreinte, plus spécifiquement destinée aux enfants, où on retrouve Le Loup et les Sept Chevreaux, bien sûr, Le Petit Chaperon Rouge, Hansel et Gretel, et bien évidemment beaucoup d'autres contes. Simplement parce qu'on était, donc cette première édition voit le jour en 1825, à un moment où les structures familiales changent énormément à l'échelle européenne, et puis bien sûr en Allemagne, où on a vraiment les débuts d'une littérature de jeunesse en tant que telle, où la famille se recentre beaucoup plus sur la petite famille au sens restreint, et où la femme commence à prendre une part vraiment prépondérante dans l'éducation des enfants. On a aussi, sur le plan sociologique, l'apparition vraiment d'un espace dédié aux enfants en propre, la Kinderstube, la pièce spécifiquement destinés aux enfants, leur propre espace. Donc tout ça, c'est un même phénomène. Et justement, puisque vous mentionniez à juste titre que c'est une édition illustrée, les premières illustrations allemandes qui accompagnent vraiment le texte des contes sont aussi dues à un autre frère Grimm. Alors c'est vrai que quand on dit en français des frères Grimm ou Grimm, on occulte une part de la réalité biographique, puisque c'était une fratrie de 6 frères et une sœur. Donc parmi ces 6 frères, il y avait un frère qui était peintre et illustrateur, Ludwig Emil Grimm, et qui a fourni des gravures qui sont restées célèbres justement pour les contes classiques, pour les grands classiques que sont La Belle au bois dormant, Blanche-Neige, Hansel et Gretel, Petit frère et petite sœur. Donc c'est une image aussi que l'on trouvait en frontispice des premières éditions. Donc c'est vraiment quelque chose qui va... en fait, ce sont les travaux de Heinz Rölke, l'auteur, l'éditeur de cette fameuse édition allemande de référence dont on parle depuis tout à l'heure, qui a étudié vraiment qui a analysé l'histoire et le succès la fortune de ce recueil. Et pour lui, c'est vraiment cette petite édition donc, qui paraît à intervalles réguliers à partir de 1825, qui va lancer la grande, qui ne démarre véritablement pour lui qu'à partir de la troisième édition, c'est-à-dire 1837. Donc c'est cette petite édition qui va propulser, qui va faire connaître la grande, et en fait les deux vont paraître en alternance, hein, la grande et la petite. Et je vous livre aussi une autre anecdote que j'aime bien. Donc je vous disais tout à l'heure que les contes sont parus dès la deuxième édition avec un volume de commentaires. Il paraît que jusque dans les années 1950, on pouvait trouver chez l'éditeur berlinois des frères Grimm des exemplaires de cette première édition des commentaires, parce que ce troisième volume c'était beaucoup moins bien vendu que les deux premiers. Voilà, je n'ai pas pu le vérifier malheureusement, mais évidemment ils sont tous épuisés aujourd'hui, mais c'est quand même un signe. Voilà, et peut-être pour anticiper une de vos questions, puisque c'est quelque chose que nous avons évoqué tout à l'heure, pourquoi ne pas avoir traduit la totalité des commentaires des frères Grimm ? Alors non pas parce que c'est trop de travail, mais tout simplement c'est vrai que le choix que nous avons fait avec les éditions Corti, c'était de présenter un conte et tout de suite de le faire suivre de sa note dans un caractère, dans une police un petit peu plus petite. Tout simplement pour que le lecteur puisse à sa guise lire la note ou la laisser de côté. C'est vrai que traduire ce volume entier de commentaires, finalement, cela peut-être aurait perdu de son intérêt, puisque j'ai essayé de faire une synthèse de ce qui pouvait être le plus intéressant, le plus éclairant pour un lecteur qui n'a pas accès à cette somme d'informations. Cela dit, il faut quand même signaler que c'est un travail absolument impressionnant que font les frères Grimm dès le début, puisqu'ils font vraiment, ils commencent par faire un panorama, vraiment ce que fait tout chercheur aujourd'hui, un état de la recherche sur le domaine. Ils font un panorama de tout ce qui a été fait sur le conte depuis les débuts, donc les premiers recueils, et c'est là qu'on voit à quel point leurs connaissances dans ce domaine sont absolument immenses, puisqu'ils parlent à eux deux un nombre très très impressionnant de langues, une vingtaine si je ne me trompe pas. Ils sont en contact avec énormément de chercheurs et d'érudits de beaucoup de pays. Ils sont membres d'une grande quantité de sociétés savantes, donc ils ont vraiment une connaissance, je pense, très très juste de cet objet, de ce genre qu'est le conte à leur époque. Donc c'est vraiment toute la première partie où ils plantent le décor, et bien sûr aujourd'hui avec les outils bibliographiques qu'on a, une part de ces informations est, je dirais peut-être pas périmée, mais un petit peu dépassée, ou en tout cas a été complétée. Mais il faut quand même savoir qu'ils ont accompli ce travail-là dès 1822, donc c'est tout à fait impressionnant. Et évidemment, ceux qui ont la possibilité de consulter le texte original, c'est quelque chose que je conseille vivement.
Bien sûr. Alors je précise que l'édition publiée chez Corti est illustrée. C'est François Fièvre qui s'est chargé de l'iconographie, et il a justement judicieusement retenu les premières illustrations allemandes, anglaises et françaises, avec une sélection donc des illustrations de Ludwig Emil en Allemagne, de George Cruikshank en Angleterre, donc qui était antérieure à celle de Ludwig Emil, et de Bertal en France, puisque c'est en 1855 que Bertal illustre pour Hachette, l'éditeur Hachette, les contes des Grimm, enfin une sélection des contes des Grimm. Je précise aussi que, je poserai une question sur l'image à Nicole Belmont après, mais je finis de décrire les volumes, qui sont à la fois des volumes savants, puisque c'est une édition critique, mais très facile d'accès et très commode, donc qui commence par une note de la traductrice, qui comporte évidemment des tables des matières par volume, mais aussi des index thématiques. Il y a aussi ce qui est très précieux, parce que vu le nombre, il y a une table des matières, des comptes par ordre alphabétique, et ça sert beaucoup, hein, parce que sinon, avec les numéros, on s'y perd un peu. Alors, il y a une postface passionnante aussi, un dossier qui comprend de nombreux textes d'écrits, une bibliographie. Voilà, il y a un texte de François Fièvre sur l'illustration avec des notices des illustrateurs. J'ai dû oublier des choses, hein, Natacha, mais ceci pour préciser la qualité scientifique de l'ouvrage. Alors, pour revenir aux images, j'avais lu dans Poétique du conte de Nicole Belmont ce qu'elle disait tout à l'heure, c'est que l'écrit fige le conte et empêche de construire des images mentales. Et ce serait pour cette raison que les contes seraient illustrés, pour pallier le manque d'images. Donc peut-être pouvez-vous nous dire quelque chose à ce sujet finalement ?
Donc, oui, bon, je peux revenir là-dessus parce qu'effectivement, très très vite, enfin dès que les contes sont transcrits et édités, donc on voit, enfin pour les Grimm, que ça commence en Angleterre, mais enfin très très rapidement dès la seconde édition. Il semble qu'il y ait une impossibilité, enfin aux éditeurs de contes, d'éviter l'illustration des contes. Les éditions de contes pour enfants doivent être obligatoirement illustrées. Et effectivement, bon, c'est peut-être un point sur lequel bon, je peux apporter le scandale. Je trouve que effectivement les illustrations donc figurées ont une force très importante vis-à-vis du lecteur et donc impriment en quelque sorte une image sans laisser au lecteur la possibilité de se forger sa propre image de tel ou tel épisode, de tel ou tel personnage, enfin de tout ce qu'on peut rencontrer dans le conte. Et empêcher la formation qui est beaucoup plus facile à l'écoute d'image mentale qui font en quelque sorte travailler l'imaginaire de chacun, parce que chacun a ses propres images à l'écoute de ce qui est raconté. Et il est évident que pour moi, c'est comme un appauvrissement de l'usage du conte, dans la mesure où on impose, bon, à l'enfant, enfin c'est surtout évidemment la littérature pour enfants qui est visée là, la vision de l'illustrateur, bon, mais qui est la sienne propre et n'est pas forcément celle qui aurait été forgée à l'écoute, c'est-à-dire image mentale. Donc je dirais qu'effectivement les images visuelles ont une force très importante. Je fais toujours allusion en ce moment-là à la télévision, enfin qui n'arrête pas de nous envoyer des images et qu'on est obligé de recevoir passivement qui ne permettent pas enfin de faire ce travail mental de l'imaginaire. Alors, il est évident que c'est peut-être là aussi effectivement. Bon, une conséquence à laquelle on ne peut pas échapper, de la mise par écrit des comptes. Mais, enfin, bon, je vais même un petit peu plus loin. Enfin, je dirais que, illustrer un conte, c'est comme raconter une autre histoire à côté. c'est raconter l'histoire telle que la comprend l'illustrateur, qui a des rapports quand même, bien entendu, avec le récit lui-même, qu'il y aurait des quantités d'autres possibilités de traduire en images visuelles. En même temps, oui, je suis bien obligée d'accepter, effectivement, le fait que l'écriture des contes appelle les illustrations visuelles.
Voilà. J'entends vos arguments, complètement. Toutefois, je prendrai quand même la défense des magnifiques illustrateurs qui, comme vous le dites fort bien, font découvrir un autre conte et un autre monde. Et les contes des Grimm ont particulièrement inspiré l'illustration. Si on pense au 19e siècle, à Walter Crane, Arthur Rackham au début du 20e siècle, j'en passe, mais Maurice Sendak, Nicolas Seidelbach plus récemment. Et d'ailleurs, il y a en ce moment une exposition au Goethe Institut qui permet de voir un certain nombre d'illustrations passionnantes. S'il n'y a pas d'autres questions, j'avais proposé qu'on termine sur la lecture du dernier conte, La Clé d'or. Un jour d'hiver, comme le sol était recouvert d'une épaisse couche de neige, un pauvre garçon dut sortir avec un traîneau pour aller chercher du bois. Une fois le bois ramassé et chargé sur son traîneau, comme il était transi de froid, il décida de ne pas rentrer tout de suite chez lui, mais de faire d'abord un bon feu pour se réchauffer un peu. Il se mit à gratter la neige et, en dégageant ainsi le sol, il trouva une petite clé d'or. Pensant alors que si la clé était là, la serrure qu'elle ouvrait ne devait pas se trouver bien loin, il creusa le sol et trouva un coffret de fer. « Pourvu que la clé aille, se dit-il, ce coffret contient certainement des trésors. » Il chercha la serrure, mais n'en trouva point. Enfin, il en découvrit une, mais elle était si petite que c'est à peine si on pouvait la voir. Il essaya la clé, et c'était bien la bonne. Il donna un tour de clé. Et, à présent, il nous faut attendre qu'il finisse d'ouvrir la serrure et qu'il soulève le couvercle pour savoir quelle merveille était contenue dans le coffret. On voit que c'est l'équivalent du conte que vous avez lu tout à l'heure à la fin du premier volume.
Merci beaucoup.